Depuis plus de 60 ans, Cheminée Charrier Artisan RGE vous conseille dans vos besoins de chauffage. Chez Cheminée Charrier, aucun sous-traitant. Techniciens, installateurs, tailleurs de pierre, ramoneurs, commerciaux sont là pour répondre à votre projet et vous apportent un service unique sur le marché local, le sur-mesure. Poussez les portes de notre magasin pour y découvrir poêles, inserts à bois et granulés, cheminées sur mesure, fabriquées dans nos ateliers à Moise. Plus de 50 modèles exposés en magasin, dont plusieurs en fonctionnement. Cheminée Charrier, 105 avenue du 11 novembre à Rochefort. 05 46 880 770 ou sur cheminée-charrier.fr. Cheminée Charrier, l'artisan de votre belle flambée depuis 3 générations.
Toute l'information locale et départementale sur Demoiselle FM.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous. 23 années de réclusion criminelle, verdict prononcé hier par la cour d'assises de la Charente-Maritime à Saintes à l'encontre de David Bourget pour le meurtre d'Antonio Delorme à Rochefort dans un camp de gens du voyage en août 2022. Son petit frère et son beau-père ont été acquittés après les aveux du principal accusé. La décrue de la Charente se poursuit, mais notre département reste toujours en alerte orange. Au pont Palissy à Saintes, le niveau du fleuve était de 6,02 m hier après-midi, soit environ 20 cm de moins que la veille, et ça va continuer de baisser. Des inondations historiques qui se sont invitées à la session du département hier après-midi par la voix du conseiller départemental Jean-Luc Marchais. Il est également maire de Bussac-sur-Charente, commune directement concernée par la montée des eaux, avec une vingtaine de maisons touchées et des routes coupées. Il a salué l'engagement des services de l'État, des secours et du département. Jean-Luc Marchais.
Les inondations que nous traversons ont une nouvelle fois durement éprouvé la région de Saintes, ses habitants, ses commerçants, ses artisans, ses agriculteurs. Face à la montée des eaux, à l'inquiétude légitime de la population et aux difficultés multiples, il est à souligner que nous avons pu compter sur un engagement total, coordonné et exemplaire des services de l'État et des forces de secours qui sont toujours mobilisées, car la décrue ne fait que commencer. Les services de l'État ont agi avec efficacité, réactivité et sang-froid, sous l'autorité de Monsieur le Préfet. La coordination des opérations, l'anticipation des risques et la prise de décisions rapides ont été déterminantes pour protéger les personnes et limiter les dégâts. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est intervenue dès hier. C'est une étape essentielle. Monsieur le Président du SDIS, cher Stéphane, je salue une nouvelle fois le professionnalisme remarquable des sapeurs-pompiers. Jour et nuit, ils ont sécurisé, évacué, assisté, rassuré les élus et les habitants. Leur engagement et leur dévouement sont exemplaires. Les services de gendarmerie ont assuré la sécurité des biens et des personnes avec un vrai sens du devoir. Leur présence sur le terrain a contribué à maintenir l'ordre, prévenir les risques et accompagner nos concitoyens dans des moments d'angoisse. Madame la Présidente, je n'oublie pas non plus le soutien immédiat dont le département nous a permis de mobiliser des moyens humains et matériels, en particulier de la direction des infrastructures et de la direction des routes.
Le président du SDIS de la Charente-Maritime, Stéphane Villain, a fait le point également sur la mobilisation des pompiers et c'est loin d'être terminé.
Les pompiers ont été très mobilisés et tu l'as dit Jean-Luc, c'est vrai que c'est plus de 700 interventions qui ont été faites là, depuis le début des inondations. Il y a eu en fait 60 pompiers mobilisés, donc plus 10 qui venaient de l'extérieur. À partir de la semaine prochaine, et tu l'as dit aussi, après les inondations, il y a un gros boulot. Il y a 60 pompiers qui vont venir des départements extérieurs pour renforcer finalement nos effectifs. Donc oui, il y a une grosse mobilisation de ce côté-là. Et tu as raison de dire, félicitations en fait à toutes ces femmes et hommes qui se sont donné en fait le relais pour secourir ceux qui étaient le plus dans la peine. Et Dieu seul sait s'ils étaient dans la peine. Pour avoir été sur site aussi, j'ai vu notamment Alexandre Grenot et bien d'autres, dans des situations bien compliquées.
Soyons fiers de cette solidarité républicaine que nous venons de vivre. Soyons fiers de notre service public, a conclu de son côté Jean-Luc Marchais. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité de Charente-Maritime réagit au vote solennel des lois sur la fin de vie et les soins palliatifs. Mercredi, les deux textes ont été adoptés par les députés à l'Assemblée nationale. Le texte sur la fin de vie qui instaure un droit à l'aide à mourir a été adopté avec 299 voix pour et 226 contre. Une majorité confortable se félicite François Bon, délégué départemental de l'ADMD de Charente-Maritime, qui se dit optimiste pour que l'examen de loi aboutisse et instaure enfin une aide à mourir.
Je suis tout à fait optimiste. Je pense que c'est vraiment une loi qui bah, qui défend les intérêts des Français, qui va défendre les intérêts des malades, des accompagnants, des soignants, parce que les soignants, aujourd'hui, on ne les protège pas. Et c'est une chose importante qu'un soignant bah, il puisse dire, choisir en liberté de conscience, pouvoir refuser éventuellement d'apporter ce dernier soin, ou bien accepter de le faire et d'être à ce moment-là protégé par une loi. Voilà, je pense qu'en effet, on peut être optimiste, on peut être vigilant, on le sera. On va continuer à demander en particulier à ce que des directives anticipées, par exemple, puissent être également intégrées à ce texte, puisque c'est pas le cas. Hein. Il va falloir manifester hein, sa volonté de façon libre et éclairée jusqu'au bout. Donc ça, c'est pas un texte qui va permettre à des gens de partir, d'être aidés lorsqu'ils ont sommeil, comme je faisais avec mon Lambert, hein, dans un état d'inconscience. Mais bon, c'est déjà une avancée, c'est déjà permettre à des gens qui ont des récidives très difficiles, très douloureuses, et des maladies dégénératives très très invalidantes et très douloureuses, de pouvoir bénéficier d'un dernier soin.
Mais l'optimisme de François Bon pourrait quand même se heurter à l'hostilité des sénateurs. La majorité de droite à la Haute Chambre avait rejeté le texte lors de la première lecture. François Bon espère un examen plus humain des sénateurs en accord avec le souhait des Français. Un sondage IFOP commandé par l'ADMD indique que 87% des Français sont favorables à une aide active à mourir pour les personnes malades en fin de vie. François Bon.
On s'attend toujours à une opposition de la droite conservatrice, hein, puisque le Sénat est dominé par la droite. Bon, la première lecture qu'ils en ont faite, c'est même pas une lecture, hein, c'est un rejet total. Je pense que c'est vraiment du mépris pour les malades, du mépris pour les gens qui souffrent, du mépris pour les gens qui les entourent et puis qui les accompagne jusqu'au bout avec les moyens du bord, hein, parfois des moyens qui sont dramatiques. Donc j'espère qu'ils auront une deuxième lecture un peu plus rigoureuse et un peu plus humaine de ce texte. Malgré tout, même s'il est rejeté, il partira en commission paritaire, où il n'y aura pas vraisemblablement d'accord, puisque on a encore, en rassemblant quelques députés et quelques sénateurs, encore une majorité de droite, donc il maintiendra, je pense, ses vœux. Et une fois que ce texte aura été rejeté au niveau de la commission paritaire, il partira pour un troisième vote à l'Assemblée nationale. Voilà. Tout ceci dans un calendrier qui est assez serré, nous promettons, puisque la présidente de l'Assemblée a indiqué que ça devrait pouvoir se faire avant le début de l'été.
L'association pour le droit de mourir dans la dignité qui organise demain d'ailleurs à Rochefort une conférence autour du thème pour le droit de choisir une fin qui nous ressemble en présence de la vice-présidente de l'ADMD France, Elsa Walter, et François Blot, co-auteur du récit La mort confisquée. Rendez-vous au Palais des Congrès demain après-midi à 16h. Il est midi 13 sur Demoiselle, on se retrouve dans un instant.
Et si un coup dur ne mettait plus vos proches en difficulté? Avec la nouvelle assurance prévoyance de la Mutuelle de Poitiers Assurance, protégez votre famille simplement. Alors, venez vite nous rencontrer à l'agence Anthony Nolo, au 159 avenue du Général de Gaulle, à Thonay-Charente, pour que l'on définisse ensemble l'offre adaptée à vos besoins. Et jusqu'à fin décembre, 2 mois offerts sur la première année. Votre agence mutuelle de Poitiers Assurance Anthony Nolo, c'est la proximité avec ses assurés depuis plus de 13 ans. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Pour le nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule, ne vous trompez plus. Choisissez l'éléphant bleu à Thonay-Charente. Éléphant bleu, c'est 3 pistes de lavage haute pression pour voitures, camping-car, utilitaires et 2 roues. En nouveauté sur les pistes haute pression, la mousse active. Une mousse couvrante, économique en eau et respectueuse de l'environnement qui se pose juste avant le lavage pour de meilleurs résultats. 86% des clients sont déjà satisfaits par l'efficacité de la mousse active. Alors pourquoi pas vous? Éléphant bleu, c'est également un rouleau automatique, 3 aspirateurs, un gonfleur, une soufflette, un lave-tapis et un parfum. Éléphant bleu, 53 avenue de Saint-Onge à Thonay-Charente, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Éléphant bleu, la propreté qui s'impose.
Salut à tous, je suis Marc Jäger, l'explorateur de Planète Exotica à Royan. C'est un zooparc exotique pour toute la famille. Partez à l'aventure et découvrez la plus grande collection de reptiles en France avec crocodiles, iguanes, anacondas et même un alligator blanc. Tu préfères nos dinosaures en taille réelle ou plutôt le village indien avec spectacles équestres et tirs à l'arc? Il y a tout à découvrir. Plus d'infos sur planète-exotica.com. Et pendant toutes les vacances scolaires et les week-ends, Ne manquez pas les animations pédagogiques avec animaux, dinosaures et indiens.
Demoiselle Midi, l'info d'ici.
Les dauphins meurent de plus en plus jeunes, c'est la conclusion d'une étude menée par l'Université de La Rochelle et plus précisément le laboratoire Pélagis qui observe les mammifères marins de très près depuis des années. Selon les scientifiques, la longévité des femelles dauphins a diminué de 7 ans entre 1997 et 2019. Attention, on parle de longévité, donc de durée de vie maximale et non pas de l'espérance de vie. Les résultats publiés dans la revue internationale Conservation Letters démontrent que la longévité moyenne des mammifères dans le golfe de Gascogne est passée de 24 ans à 17 ans, en seulement donc 20 ans. Des conclusions issues de l'étude des dauphins échoués sur nos plages. Mathieu Autier, ingénieur de recherche à Pélagis.
En fait, on a un dispositif assez unique en Europe, qui est le réseau national d'échouage, qui permet, en mobilisant de nombreux acteurs de la biodiversité, dont l'OFB et d'autres institutions, de recenser vraiment l'ensemble des mammifères marins qui s'échouent. Et nous, notre travail, c'est sur l'ensemble de ces animaux, des prélèvements sont réalisés, notamment des prélèvements de dents, et à partir d'une dent, on est capable en fait de donner un âge aux animaux. Donc on peut connaître l'âge à leur mort. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un échantillonnage représentatif des animaux qui sont échoués entre 1997 et 2019, représentatif pour chacune de ces années, et on a pu étudier en fait pour chacune des années, la survie des animaux à partir des âges à la mort. Et on a pu mettre en évidence ici une augmentation de la mortalité et donc en fait une diminution de la longévité de ces animaux.
Une baisse de la longévité liée aux activités humaines en mer, la pêche en particulier, soulignent les scientifiques.
On sait aujourd'hui, en fait, et pas seulement sur le golfe de Gascogne, mais de par le monde, la principale menace sur les petits cétacés comme les dauphins, ce sont les captures dans les engins de pêche. Et dans le golfe de Gascogne, il y a aussi de nombreuses captures de cette espèce protégée dans des engins de pêche. Et donc, en fait, ici, la cause la plus probable et raisonnable ici de supposer, c'est bien en fait l'impact des activités humaines et notamment l'impact de la pêche, puisque chaque hiver, on retrouve en fait de nombreux échouages d'animaux et pour la majorité de ces échouages, les animaux ont des traces de capture accidentelle. En fait, il y a plusieurs engins qui sont à risque, dont les filets de pêche. Mais voilà, c'est vraiment, en fait, il y a eu un gros travail pendant le projet Delmoge pour essayer de mieux caractériser, en fait, les différents engins qui étaient à risque. Et ce travail, en fait, a permis aussi d'éclairer, on va dire, ensuite, quels engins ne pouvaient pas pêcher pendant les fermetures spatio-temporelles de 2024, 2025 et 2026. Mais voilà, on sait qu'il y a plusieurs engins qui posent des risques à ces animaux.
Les scientifiques soulignent que les femelles dauphins commencent à se reproduire vers l'âge de 7 ans et ne donnent naissance qu'à un seul petit tous les 2 à 3 ans. Cette faible fécondité combinée à une mortalité de plus en plus précoce fragilise donc fortement la viabilité de la population, selon les scientifiques. Sur l'agenda à Rochefort, le Conseil du CIL, le syndicat intercommunautaire du littoral, se réunit cet après-midi à 14h à la salle polynumérique. À l'ordre du jour, le budget primitif 2026. Et puis Michel Barnier, ancien Premier ministre et ministre de l'Environnement sous le gouvernement Balladur, sera à Saint-Palais-sur-Mer cet après-midi. Il vient soutenir Pierre Bernardeau, candidat municipal de la liste Ensemble pour Saint-Palais. Christophe Plassard, député de Royan-Marais-Oléron, sera également présent. Une visite organisée autour du thème du littoral et des moyens d'action de le préserver.
Demoiselle, interview.
Thomas Lafarry, bonjour.
Bonjour Monsieur Bideau.
Vous êtes tête de la liste Royan Nouvelle Ère et vous menez la bataille donc pour les municipales dans la capitale de la Côte de Beauté. C'est la deuxième fois que vous présentez. Pourquoi ?
Tout simplement parce que en tant que conseiller municipal et communautaire, je me rends compte que mon travail est efficace pour toute une partie de la population royanaise, donc les parents d'élèves, les actifs, les entrepreneurs, les sportifs. Pour que y ait certaines décisions qui soient prises en conseil municipal et surtout aussi en conseil communautaire où se jouent beaucoup de choses au niveau du tourisme, de la diversification économique, du logement et de l'attractivité globale de notre ville et de notre agglomération. Donc même si c'est un engagement bénévole, que ça me prend du temps sur mon activité professionnelle et familiale, c'est vraiment important. J'ai une équipe qui continue à représenter toute une partie négligée de la population royanaise dans ces deux instances qui ont une importance primordiale pour l'avenir de notre territoire.
Quelles sont les grandes priorités que vous fixez alors ?
Bah, la grande priorité, je vous l'ai dit, c'était le, commencer à vous le dire, c'était la, vraiment de continuer à insister dans la diversification économique de notre agglomération. Pour ça aussi, pour continuer à être attractif, enfin pour attirer des entrepreneurs, des télétravailleurs, des entreprises, il faut également qu'il y ait une offre de logement digne de ce nom. Tout le monde a du mal à se loger, à trouver une location à l'année, à acheter un bien à Royan ou, les communes, ou dans les communes voisines. Donc là, c'est d'avoir un vrai plan en matière de logement. On n'a rien inventé, on s'est inspiré de la loi Lemeur qui offre certaines facilités depuis 2024, de ce qui est fait à La Rochelle, au Sable-d'Olonne, à Arcachon ou dans le Pays Basque. Donc il y a toute une série de mesures, ça sera en ligne sur notre site internet, je ne vais pas les décliner, mais voilà, il y a beaucoup de choses à régler et à faire pour mieux communiquer et mieux maîtriser certains abus des plateformes de location de courte durée, notamment.
Parce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est vraiment un réel problème.
Et puis, on a aussi deux, trois projets au niveau de la ville et de l'agglomération. Donc, le premier, c'est un complexe de spectacle et de divertissement. Donc, pas seulement une salle de spectacle pour pas que ce soit une coquille vide. 6 jours sur 7 ou une partie de l'année. On a vu avec le Palais des Congrès qui a coûté 10 millions d'euros et qui coûte 300 000 euros de subventions d'équilibre chaque année pour pas grand-chose. Il faut penser un complexe global où il y aura certes des spectacles, des artistes, des humoristes, des troupes de théâtre qui viennent et qui ont la capacité d'attirer des milliers de spectateurs assis ou debout. Il faut aussi qu'il y ait d'offres de restauration, un bar d'ambiance et deux ou trois activités de loisirs, de divertissement. Là, ça sera aux délégataires de services publics de les choisir. Il ne faudra pas que ça concurrence celle qui existe déjà sur le territoire, bien évidemment. Donc, première chose. Seconde chose, une fois que la piscine, on va faire en sorte que la nouvelle piscine sorte réellement de terre dès 2028. Donc, avenue d'Aliénor d'Aquitaine, près du lycée Cordouan. Ensuite, on aura donc un bâtiment architectural intéressant qui est la future ex-piscine municipale. On voudra y transférer la médiathèque et pourquoi pas certaines activités de l'escale jeune à ce niveau-là pour permettre d'avoir une médiathèque qui soit vraiment à la hauteur de notre population. Là, actuellement, elle est sous-dimensionnée. Et puis, troisième grand projet, qui en fait n'est pas forcément un grand projet, c'est justement, il y a eu des grands projets qui ont été menés par le maire sortant, le Front de Mer, le marché central, le Palais des Congrès. Le Front de Mer, j'ai même voté pour en commission d'appel d'offres pour ce projet global. Maintenant, il faut vraiment investir dans les quartiers où résident les Royanaises et les Royanais. Faut remettre à niveau la chaussée, les trottoirs, l'accessibilité des trottoirs, ça pose un souci pour tout le monde, les poussettes, les personnes qui ont des problèmes de mobilité, également, certaines zones de stationnement et certains gros carrefours, Il est hors de question de faire ce que propose le maire sortant avec les Champs-Élysées à Royan. Au contraire, il faut investir, réinvestir, rénover le quotidien. Ça va jusqu'à aussi une meilleure circulation des vélos, des cyclistes, et puis également l'enfouissement de certains réseaux. Pour les trois grands projets.
En tant que conseiller municipal d'opposition, quel regard vous portez sur le mandat justement de Patrick Maringot, le maire sortant ?
Bah, un mandat où il a un peu trop mis l'accent sur les gros projets. Ça a commencé avec la finalisation du Palais des Congrès, donc coquille vide qui coûte quand même cher chaque année aux Royanais, alors qu'on n'a pas de salle de spectacle. C'est la salle Jean Gabin, qui est un ancien cinéma reconverti en salle de théâtre, mais qui n'est pas suffisamment large ou haute pour accueillir certaines pièces. Le marché central de Royan, mais là encore, je l'aurais redéfini différemment pour qu'il y ait plus de restauration sur place. Et puis le front de mer. Donc des grands projets, et là malheureusement il repart sur une idée de grand projet avec ses Champs-Élysées à Royan. Il faut vraiment investir dans le quotidien des Royanais, et donc ça passe par aussi avoir des plans en matière de diversification économique, d'accès au logement et de différents investissements pour que tout le monde se sente bien et toutes les catégories d'âge, pas faire juste de l'électoralisme auprès des retraités. C'est un enjeu, c'est essentiel, c'est vital pour notre territoire. Il faut vraiment avoir cette action-là au niveau de la ville, mais surtout de la CARA.
Ah justement, parlons de la CARA, on entend souvent dire du côté de l'équipe sortante que les élus royennais ne sont pas assez représentés, qu'on ne les écoute pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
C'est faux. Moi, je participais activement, j'étais présent à tous les conseils communautaires. On est 14 sur 63. Patrick Maringot, il a peut-être dit, je crois que c'était 11 représentants de sa majorité municipale. Ils étaient trois vice-présidents de la majorité, plus des conseillers délégués. Donc non, il était très bien écouté en bureau et en conférence des maires de l'agglomération. C'est même lui qui, on peut le dire, qui a bien pourri l'exercice, le mandat de Vincent Marot de 2020 à 2026, avec des relations avec ses CRAV, je ne suis pas le seul à le dire. Donc heureusement, certains de ses vice-présidents étaient un peu plus constructifs d'ailleurs, ses conseillers communautaires, mais non, il emporte entièrement la responsabilité de ne pas forcément être écouté ou de ne pas être pertinent sur les sujets économiques, sur les sujets de transport, de déchets, voilà. De toute façon, tous les sujets techniques ne sont pas forcément bien maîtrisés par Patrick Maringot, ça, tout le monde s'en est aperçu.
Un dernier mot sur vos rendez-vous avec les habitants de Royan, il y a plusieurs réunions publiques et puis un grand meeting en mars.
Oui, c'est ça. On fait une réunion au cinéma Le Lido, donc qui sera permettra de présenter la future équipe d'adjoints et de conseillers délégués, et puis des échanges partout en petit format dans les écoles publiques. Donc ça commence ce soir, le 26 février, à La Clairière. Il y aura le 3 mars à Louis Boucher, le 10 mars à Jean Papeau et le 13 mars pour finir à l'école de Lieuze. Mais la principale, effectivement, c'est au cinéma Le Lido à 19h le jeudi 5 mars.
Trois autres listes en rayon, je vous les rappelle, celle du RN Nicolas Calbrix, des forces de gauche Jacques Guillard et du maire sortant d'hiver droite Patrick Maringot. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Des nouvelles du ciel avec Météo de la Charente-Maritime. Pour des prévisions locales fiables sur notre département, rendez-vous sur la page Facebook Météo de la Charente-Maritime.
Ça change un peu, Michael, aujourd'hui.
Oui, écoutez, on a eu pas mal de brouillard ce matin, hein, ça s'est dissipé, ça y est, et puis là, on garde tout simplement un ciel nuageux, une couverture nuageuse sur l'ensemble du département, avec en fin d'après-midi et en soirée l'arrivée de quelques petites pluies. Les températures, aux alentours de 14 degrés en Saintonge, comme à Saint ou à Chaniers, il fera 12 à 13 degrés du côté du pays royanais, que vous soyez du côté de Royan ou Sémussac, 13 degrés à Rochefort et Soubise, 11 degrés sur La Rochelle, 12 degrés sur Oléron et l'île de Ré. Pour votre week-end, samedi, ce sera nuageux le matin avec quelques gouttes de pluie, l'après-midi nuageux avec de larges éclaircies. Dimanche, un temps sympathique avec nous, on aura pas mal de luminosité avec quelques passages nuageux. Les températures seront un peu plus fraîches aux alentours des 12 à 13 degrés seulement en deuxième partie de journée pour les maximales.
Depuis 2010 à Rochefort, les maîtres menuisiers accompagnent les professionnels et les particuliers dans tous leurs projets de menuiserie. Vente de menuiserie intérieure et extérieure, porte d'entrée, volets roulants, porte de garage, portail, clôture, pergola, store en alu, PVC ou bois, panneaux de bois, contreplaqué en qualité extérieure et médium, à la plaque ou à la découpe sur place, moulure bois, tasseau. Grand choix de moulures PVC et aluminium pour toutes vos menuiseries. Les maîtres menuisiers, c'est aussi les peintures intérieures et extérieures teintées à vos couleurs. Côté quincaillerie, c'est simple. Plus de 80 000 références sur catalogue, disponibles en 24 à 48 heures. Les maîtres menuisiers, 11 avenue André-Dulin, zone industrielle des Sœurs à Rochefort, au 09 66 87 37 22. Les maîtres menuisiers, le choix, le conseil, la qualité.
Merci d'avoir suivi cette édition. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Demoiselles.